Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, enchantés, chanteurs, enchanteurs. Il est midi ou peut-être 17h et vous écoutez L'Onde Curieuse. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'éclaircit la gorge de l'Ardèche et on prend une grande bouffée d'air frais. Je ne vous parle pas de météo, hein, je laisse ça à Sylvain. Non, une grande bouffée d'air connus, célèbres, tels ceux de Debussy ou Mozart, mais frais, joyeux, enlevés. Une grande bouffée au sens de l'opéra bouffe, une opéra bouffée d'air frais qui sentent l'hibiscus et le palissandre et qui s'adresse notamment aux jeunes pousses, aux herbes fraîches, ciboulette et basilic, paraît-il. Une opéra bouffée d'air frais qui nous fait nous envoler, des envolées lyriques certes, mais celles aussi qui nous font monter dans les tours, qui nous font rire, qui nous font prendre de la hauteur, comme un voyage en montgolfière et capable d'atterrir sur tout terrain. Aujourd'hui, on rediffuse un entretien avec les interprètes d'une nouvelle création, un piccolo opéra pour trois voix et violoncelle, un piccolo opéra végétal pour toute la famille qui se dit tout terrain, hibiscus et palissandre, écrite par Philippe Forget avec l'humour qu'on lui connaît et qui sera présentée dès ce vendredi du 13 au 15 juin dans le cadre du festival La Baume en musique. On était en mars, fin mars précisément, ils étaient en pleine résidence de création, ils, les trois interprètes, Clémence Lévy, soprano, metteuse en scène et cofondatrice d'Opéra en Liberté, Mathieu Justine, ténor, le deuxième complice d'Opéra en Liberté, et il n'était pas prévu alors, mais il est venu quand même, Antoine Payen, qui joue le rôle de Paul Érable, qui est violoncelliste et comédien. Voilà, vous savez tout, c'est le programme de d'après l'agenda. Et l'agenda aujourd'hui, aux surprises, présenté par Marion. Salut Marion.
Bonjour.
Et toujours à la réalisation, à la technique, surprenant aussi Sylvain, mais qu'est-ce que tu fais là?
Je sais pas. Bonjour quand même.
Bonjour.
Et on continue en musique toujours. Alors on a ce soir l'atelier chant de La Bulle qui chante, qui vous invite à son premier concert au café associatif La Petite Bulle à Prades. Donc ce soir à 19h et le concert aura lieu dans la cour supérieure de l'école et sera suivi d'un repas partagé. On a également un autre concert, comme tous les mardis, on a le domaine du Viala de La Blachère qui organise son marché de producteurs et de créateurs. Et vous retrouverez donc un concert du groupe Les Décalés qui aura lieu donc sur toute la durée du marché qui commencera donc aujourd'hui à 17h30 au domaine du Viala à La Blachère. Ce soir, à 20h30, la compagnie des Sept Vents accueillera le spectacle La Perle des Écrins. C'est donc une création en forme de conte musical aquatique porté et interprété par M. Essido qui entraîne petits et grands dans l'épopée d'une goutte d'eau au rythme d'un accordéon, d'une guitare et de deux voix. Un conte bercé par des airs de bossa, de valse, de swing et de surtout de jeux de mots. L'entrée est à 10€ et il est conseillé de réserver. Le spectacle aura lieu également demain, donc mercredi 11 juin à 18h au café associatif, encore une fois, de La Petite Bulle à Prades.
Oh, quelle boucle formidable.
On arrête la musique là, on commence avec les AG à Burzé. On retrouve l'association Montalafera qui organise donc son assemblée générale à la salle des fêtes de Burzé. Donc Montalafera, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont pour objectif de contribuer au développement culturel, économique, social et sportif de la vallée de la Bourge. Et donc l'association réalise plusieurs actions autour de l'échange et du lien social, de l'ouverture du territoire et la facilitation des initiatives. On les a reçues il y a quelque temps dans notre Onde Curieuse. Le CA est donc ouvert à tous et si vous souhaitez vous joindre à eux, pensez également à prendre votre adhésion afin de pouvoir voter l'année suivante et un pot sera offert en fin d'assemblée. Merci de les prévenir de votre venue, soit par téléphone ou par mail que vous retrouverez sur le site de maisondevallée.fr. La nouvelle boutique coopérative Les Pépites, qui est portée par l'association Âme Sud de Joyeuse et qui a ouvert début mai en plein cœur de l'Argentière, est gérée par une équipe de 6 jeunes. Et cette boutique propose également des animations thématiques. Et la première sera avec Pirata Sin Barco, ce mercredi donc 11 juin à 14h. On a donc petits et grands qui sont invités dès 10 ans à venir créer un arbre en fil de fer. Donc le tarif de cette animation est de 12 €. Les réservations se font auprès d'Âme Sud. Et on vous donne rendez-vous donc mercredi à 14h à 6 place du Maréchal Suchet à La Jonquière, en face de l'office de tourisme. Et pour finir, mercredi à 18h, l'association Les Amis de Bannes vous présentera donc à la mairie de Bannes une conférence débat animée par Tassadit Favri, une conservatrice du musée des Vents en Cévennes, sur la vie et l'œuvre du créateur de la chirurgie orthopédique moderne, Léopold Ollier, qui est né au Vence en 1830 et mort à Lyon en 1900. Donc on reviendra sur la vie de cet homme à partir de documents d'archives sonores et de photographies et d'objets. Donc Madame Tassadit Favri dévoilera au public qui était ce grand chirurgien. Donc c'est à partir de 18h45, en présence aussi de formateurs en secourisme ainsi que de pompiers, il y aura une animation sur les gestes de premier secours, ainsi que l'utilisation d'un défibrillateur qui aura lieu. L'entrée est libre et il est réservé de conseiller auprès des amis de Bannes.
Non, tu parlais de jeu de mots, tu as dit « il est réservé de conseiller ». Je pense que les auditeurs et auditrices ont compris. Merci beaucoup Marion. on commence cette entrevue avec les trois interprètes du Piccolo Opéra Hibiscus et Palissandre en musique.
De grâce, écoute-moi, sois bonne. Je fus cruel, oui, je le sais, mais rends-moi ton cœur et pardonne à qui t'aime plus que jamais.
Non, non, je ne veux pas vous entendre.
Écoutez-moi.
Des larmes dans tes yeux, c'est pour ton départ, Clara. Ciao. C'est une dédicace, peut-être sans le savoir, de la part de Clémence Lévy, soprano, et Mathieu Justine, ténor, que vous venez d'entendre et qui interprétait Pomme d'Api d'Offenbach. Merci à tous les deux d'être là. Et merci également à Antoine Payen, violoncelliste et comédien. Vous êtes tous les trois ici pour débuter une semaine de résidence de création pour la prochain spectacle, donc l'Opéra Piccolo, comme on l'a appelé, qui est présenté aussi comme un grand éclat de rire, lyrique, tout terrain pour toute la famille, une sorte de comédie romantique enlevée, non, sur fond de préoccupation environnementale. Alors je ne sais pas si je suis sur la bonne piste, puisque définir un projet sur papier, c'est très très compliqué, mais vous allez nous dire, donc vous qui êtes là justement pour créer ce spectacle, comment vous le présentez, ce spectacle ? Hibiscus et palissandre.
Alors déjà, c'est né d'une rencontre avec un chef et compositeur qui s'appelle Philippe Forget.
Et librettiste,
oui. Parce qu'en fait, il nous a envoyé des contes qu'il avait écrits. On s'est dit, ouais, c'est super les contes que tu écris, tu pourrais pas nous écrire une petite histoire. Et donc c'est Philippe qui dirigeait l'enlèvement au sérail qu'on a fait en 2022 à La Baume en musique. Et donc de cette rencontre, nous on avait créé une association qui s'appelle Opéra en liberté pour amener l'opéra dans des lieux atypiques et faire découvrir l'opéra à des gens qui connaissent pas forcément. Et du coup Philippe nous a proposé de nous écrire un opéra pour nous, pour Opéra en liberté. Et donc c'est comme ça qu'est née l'œuvre. Donc il nous a d'abord écrit un livret qu'on a lu il y a un an et demi, et puis il nous a écrit la musique qu'on a eue il y a 6-7 mois, quoi. Et donc qu'est-ce que...
Mais tout est création, c'est-à-dire la musique, alors j'ai pu lire que voilà, ça pouvait reprendre des airs connus, non, tout est création.
Tout est création. Ensuite c'est inspiré, effectivement il y a des inspirations, qui font penser à Poulenc, qui font penser à Ravel, qui font penser à Debussy. Donc il y a des inspirations qui nous emmènent dans des mondes musicaux voilà, qu'on connaît plus ou moins bien. Mais tout est création.
Et l'histoire, en quelques mots, sans trop dévoiler alors peut-être.
L'histoire, c'est l'histoire d'arbres qui veulent s'enfuir d'une forêt exploitée.
Donc il y a quoi ? Un message ? Un sous-texte, une sensibilité.
Une sensibilité, oui, ça c'est sûr. Ça vibre dans les feuilles.
Ouais. Oui, une sensibilité à la nature et à comment l'homme exploite son environnement de diverses manières. Et comment on peut sensibiliser la jeunesse, notamment à. Il y a un arbre, il y a une fleur, si on les coupe, si on les brûle, ça va changer quelque chose dans l'espace. Donc il y a une fleur qui va être allergique parce qu'il y a des choses qui brûlent, il y a des choses qui sont coupées.
Et ça, c'est un spectacle, alors, qu'on dit pour enfants, ça veut dire quoi d'abord ? Pour enfants, jeunes publics, pour toute la famille, c'est-à-dire que j'ai vu que c'était accessible à partir de 6 ans.
Oui, après, il faut donner des âges, mais en vrai, moi, je trouve que c'est tout le monde peut voir ce spectacle, c'est famille. Alors oui, effectivement, des trop jeunes peuvent aussi décrocher, voilà, mais en fait, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est appelé spectacle famille, parce que il y a plusieurs lectures. C'est comme toute fable, comme tout conte. Il y a plusieurs lectures et puis il y a aussi la beauté de la musique, la vibration des voix, la vibration du violoncelle qui interpelle, qui va chercher le public. Et puis il y a aussi la mise en scène. La mise en scène au-delà de la musique, au-delà de l'histoire. Voilà, il y a des personnages qui vivent. Qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on va entrer en interaction avec notre public ? Avec tout simplement les humains qui sont avec nous à ce moment-là.
Clémence, tu parles de mise en scène. C'est toi qui fais la mise en scène de ce spectacle ?
Alors, c'est Samuel Tassinage qui va assurer la mise en scène de ce spectacle. On a beaucoup de chance. D'accord. Et il nous rejoint demain pour la résidence. On l'attend avec impatience.
Alors justement, où en êtes-vous aujourd'hui de la création de ce spectacle ? Vous commencez tout juste ou il y a eu une étape préliminaire ?
Il y a une petite étape. On s'est vu...
Antoine, donc...
Oui, bonjour à tout le monde. Non, parce que les chanteurs parlent. Hein, et on sait que... Mais... En fait, je suis là aussi.
De la voix.
Je suis là aussi.
Mais oui.
On s'est vu une petite semaine, il y a un mois, où on avait chacun la partition manuscrite, hein, difficile à lire. Hein. Heureusement, maintenant elle est imprimée, mais... où on a passé en fait à déchiffrer tout simplement, c'est-à-dire à lire ligne par ligne ce qu'il fallait jouer pour le violoncelle, ce qu'il fallait chanter, et puis à mettre ensemble, voir ce qu'il faut faire pour le tempo, les nuances, etc. Toutes les indications qui sont marquées sur la partition, et on est comme ça, on défriche comme une sorte de navire brise-glace qui avance petit à petit, là, ligne par ligne. Et ça, c'est un travail qui est... Bah, indispensable forcément, qui est un peu long, mais qui nous permet aussi d'aborder cette semaine peut-être plus facilement, parce que comme on connaît déjà un petit peu ce qu'il faut faire techniquement, on va dire, bah, ça permet de créer une mise en scène de manière un petit peu plus facile.
Parce que là, pendant cette semaine, est-ce que vous avez un objectif? Est-ce qu'il faut que vous ayez créé quelque chose en particulier ou pas du tout? Vous y allez tranquillement et c'est juste le plaisir de voir ensemble peut-être la mise en scène ou comment ça...
Il faut qu'on s'entende bien à la fin de la semaine encore.
Oui, il ne faut pas qu'on s'entretue.
Si possible.
Non,
l'objectif, c'est quand même d'aller le plus loin possible, mais toujours dans le plaisir et justement de pouvoir garder, dans la création, c'est très important de garder le côté du plaisir, parce que c'est ça ensuite qui va être transmis au public. Et du coup, c'est ça aussi l'idée, c'est de garder, nous, notre passion de la musique, et de pouvoir faire vivre tout ça comme chaque plein de petites étincelles, quoi.
Et justement, vous parlez là de plaisir de la création. Comment on aborde, alors est-ce qu'on aborde un opéra pour enfants ou pour toute la famille, enfin pour enfants, est-ce qu'on l'aborde différemment? Est-ce qu'on joue, est-ce qu'on interprète, est-ce qu'on s'adresse? Alors d'abord, est-ce qu'on s'adresse dans un opéra à un public particulier? Mais quand on a des enfants dans le public, est-ce qu'on module son jeu?
Je pense que, comme tous les publics, on va s'adapter. Chaque fois est différente, en fait. Surtout quand on a des opéras hors les murs, où on va vraiment à la rencontre de publics qui sont souvent nouveaux, donc qui n'ont pas forcément les codes de l'opéra, qui peuvent être des codes, c'est bien d'avoir les codes, mais en même temps, des fois, c'est très enfermant aussi. Du coup, on va essayer de tendre la main et puis de voir en face si ça répond ou pas. Et après, que ce soit pour enfants, que ce soit pour adultes, que ce soit pour famille, ça, moi, j'ai un peu toujours envie de dire que c'est faire avec sa sensibilité et la sensibilité qui répond en face. Et après, oui, dans la mise en scène, certainement que peut-être il va y avoir un peu plus de pantomime, un peu plus de masques, un peu plus, un petit peu plus, on va peut-être un petit peu plus chercher l'interaction avec le public. Mais en vrai, nous, dans ce qu'on fait avec Opéra en Liberté, ça nous arrive souvent d'aller jouer hors les murs. Et c'est quelque chose que même pour le tout public, on va chercher un clin d'œil, on va chercher un sourire de la personne en face, quel que soit son âge.
Mais en tout cas, pour compléter l'histoire de est-ce qu'on va faire différemment, d'une certaine manière, on va faire pareil qu'avec un opéra pour adultes, entre guillemets, enfin pas pour enfants, quoi. On va prendre un texte et on va l'aborder comme un interprète, comme un musicien, de la même manière qu'une œuvre de Mozart, Verdi, Puccini.
On va être au service de l'histoire. Qu'est-ce qu'on raconte? Pourquoi on est là? Qu'est-ce que veut dire notre personnage?
Et alors, qu'est-ce que veut dire votre personnage? Qu'est-ce que veut dire Hibiscus?
Hibiscus, ça veut dire on est tous frères sur cette planète, on est tous ensemble, donnons-nous la main et essayons de construire un monde meilleur, les gars. Réveillez-vous, ouvrez les yeux.
Et Palissandre, qu'est-ce qu'il dit, Palissandre?
Alors, bon,
de quoi il a envie, Palissandre?
Palissandre, c'est un peu le méchant de l'histoire, mais il va être aussi une espèce de symbole de l'homme qui s'auto-détruit lui-même en détruisant son environnement, puisque Palissandre, c'est un arbre qui exploite d'autres arbres. Donc ils coupent des arbres, donc c'est une sorte aussi de vraiment d'autodestruction directement. Et il y a cette espèce de schizophrénie. C'est un arbre, c'est un humain. On ne sait pas vraiment parce que c'est ce personnage qui va faire le lien avec avec l'humain. Et puis à la fin, il va y avoir une sorte de repentance. Aussi.
Ah non, mais non, mais on ne dévoile pas trop la fin.
Non, sans dévoiler la fin.
Voilà, c'est foutu.
Bon, bah voilà, vous avez tout vu.
Inutile de venir entre le 13 et le 15 juin voir cette création. Faites autre chose. Non, et jouer, tu as parlé de méchant. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à faire affleurer cette palette d'émotions?
Oui, il y a un plaisir. Le plaisir de l'interprète, l'acteur ou le chanteur, c'est d'avoir un personnage et de le défendre coûte que coûte. Donc de ce méchant, pas jouer le méchant, mais jouer quelqu'un de très sincère et qui a des envies. Et ça va aussi.
Et qui a des raisons d'être méchant.
Et qui a des raisons d'être méchant. Et du coup, on va être touché par ce personnage et il va laisser apparaître aussi, comme parfois il peut y avoir de l'ambivalence dans les choses qui se passent, t'es un traître ou t'es un méchant, c'est pas bien ce que tu fais. Oui, bah, on peut aussi avoir le droit à une seconde chance, se reconstruire, se remettre en question, se dire « Ah, c'est peut-être pas top ce que j'ai fait là ». Mais voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. C'est...
Mmh. Et Paul Érable, c'est ça ?
C'est ça. C'est
Paul Érable, c'est le troisième personnage interprété par Antoine Payen.
Je vais me dire de Paul Érable, un peu plus léger comme personnage, hein, qui est amoureux d'Hibiscus, hein, soyons francs. C'est dit au début, ça.
Ça met un peu de piquant.
Ça, je dis au début, donc je ne spoil pas.
Mais Palissandre aussi, il est un peu amoureux.
Oui, c'est ça.
Ouais. Enfin bref, on ne spoil pas plus qu'une bande-annonce, quoi. C'est voilà. Une grande bande-annonce, là, qu'on fait.
Donc Paul Érable, bon, c'est un personnage... Oui, un petit peu plus léger, qui est désireux de bien faire et qui comprend peut-être pas toujours tout très vite, hein, mais avec de la bonne volonté, ça devrait marcher.
Et la place du violoncelle dans cette pièce?
Ah bah, elle est plutôt centrale, je dirais, puisque c'est le seul instrument. Hein, donc si on considère les voix, la voix c'est un instrument, c'est le seul instrument pas intérieur. Donc du coup, c'est aussi la grande spécificité de cette œuvre, hein, presque plus que de dire que c'est pour enfants ou du public, c'est que c'est un mini-opéra, surtout dans la formation, quoi, avec vraiment deux chanteurs lyriques et un seul instrument, le violoncelle. Donc ça, c'est vraiment pas du tout courant, mais Philippe Forget reprend vraiment l'écriture opératique pour les voix, notamment, et c'est ça qui est vraiment très original, je trouve, dans cette œuvre.
Et alors on dit souvent que le violoncelle, ça s'approche vraiment à la tessiture de la voix. Est-ce que, par exemple, il est écrit justement comme une troisième voix ou pas? Ou alors là, est-ce que c'est juste un lieu commun que je continue de perpétuer?
Non, on ne permettrait pas de dire ça. mais oui.
Voilà.
Alors, plus qu'une troisième voix, je voulais dire, là, il est seul à faire ce qu'on appelle l'orchestre en général. En général, l'orchestre, c'est 40 ou 50 musiciens. Et là, le violoncelle fait l'orchestre à lui tout seul. Donc c'est pour dire aussi la place, l'importance de ce violoncelle. Et en plus, il joue un personnage. Donc c'est
travail.
J'espère que tu es bien payé pour...
c'est avant tout un métier passion.
On parle depuis tout à l'heure de cet aspect de tout terrain, petite forme. Donc là, on l'a entendu, hein, une petite forme. Vous êtes trois, vous pouvez partir en voyage en montgolfière, comme je disais tout à l'heure, pour vous poser un peu n'importe où. Vous avez l'habitude, opéra en liberté, de fonctionner comme ça? Et si oui, est-ce que ça a quelque chose... Enfin, est-ce que vous le souhaitez particulièrement, ça, de permettre ce type d'opéra?
Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui est né d'ailleurs du premier confinement où en fait on a été invité à chanter dans une cité de région parisienne et où il n'y avait plus de salle de spectacle ouverte et du coup on a chanté en bas des tours et tous les gens étaient vraiment sur leur balcon et du coup on a touché des personnes qui pensaient absolument pas un jour rentrer dans une salle de spectacle. Et ensuite ils sont venus nous voir et nous ont dit c'est super en fait. Il y a de l'émotion qui passe. Et du coup, hein, c'est vraiment... on s'est un petit peu penché sur cette histoire. Et ça nous arrive assez souvent de refaire ce type de spectacle. Et d'investir aussi, puisque je suis aussi metteuse en scène et on investit effectivement les lieux du quotidien des gens en les surprenant, en grimpant sur un pont, en utilisant une porte vitrée et en mettant l'opéra chez eux. Et ça, pour n'importe qui, il y a la petite surprise et de la vibration de la voix et ça marche toujours.
Mmh. Et là d'ailleurs, les trois représentations vont avoir lieu dans des lieux différents, donc vous allez les créer à chaque fois in situ, il y aura peut-être des modifications.
C'est une adaptation qu'on pratique très souvent, de voilà, s'adapter au lieu, et ça nous tient très à cœur aussi de mettre en valeur le lieu dans lequel on est. Si c'est un lieu du patrimoine, si c'est un lieu naturel, ou si c'est un lieu de vie, on va mettre ça en valeur. Donc à l'intérieur du spectacle, il y a comme un canevas, et il y a des endroits spécifiques où nous, on va aller vagabonder, quel que soit le lieu donné. Donc on arrive 1-2 heures à l'avance et on dit « Ah oui, là on va utiliser ce spot, il est trop bien. Là on va utiliser ça, c'est encore mieux. » Voilà, et donc Mathieu et moi qui serons mobiles puisqu'on n'a pas un instrument fixe, on pourra justement utiliser ça, et ce qu'on a l'habitude de faire en plus.
Donc il y aura des petites différences entre vendredi 13 juin, ce sera au château d'Aubenas. Vous allez repérer les lieux tout à l'heure, je pense. Samedi 14, ce sera à la commanderie de Jalès, aussi un autre lieu complètement extraordinaire. Et dimanche 15 juin, ce sera au Rocher des Curés, à la Baume, là aussi. Waouh. Trois lieux, vous avez de la chance.
Oui.
Et sans doute nous aussi, pour vous voir, mais c'est vrai que ce sont des lieux extraordinaires. J'ai lu que avant le spectacle, il allait y avoir une petite partie un petit peu interactive avec les gens de 15 minutes.
Tout à fait, ça fait partie du spectacle en fait, de mettre le public et notamment les jeunes en immersion avec ce qu'on va faire ensuite. Donc c'est apprendre un petit bout d'un des airs, tous ensemble, et aussi de construire quelques ambiances sonores qui vont ensuite, que tout le public va devoir restituer au cours du spectacle. Donc c'est très ludique et ça va être tranquille.
Oui, c'est ça, ça va être tranquille. Quelquefois, ça fait un peu peur.
Oui, non, c'est tranquille. Et puis, tout le monde sera ensemble et on sera là pour vous accompagner. Donc.
J'avais une question, peut-être de manière un peu plus générale. Dans un monde où on est, où tout le monde nous vend des expériences et des expériences immersives tout le temps, des expériences à 360 degrés, est-ce que pour vous, qui pratiquez un art, l'opéra, qui est censé au début, enfin depuis quelques siècles, être précisément cet art immersif 360 degrés, est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Le fait que maintenant tout est tout le temps immersif, hein, tout est censé être une expérience interactive, immersive. Est-ce que du coup ça vous pousse vous à essayer autre chose?
Moi je pense que c'est plutôt un désir de se rapprocher des gens et d'une forme de sincérité et de contact direct avec le public. Nous en tant qu'artistes, d'être en connexion, c'est pour ça qu'il y a cette interactivité et cette préparation avant. C'est un spectacle, c'est des interprètes et un public, et il y a toujours un aller-retour entre les interprètes et le public, qu'ils soient sur scène ou que l'espace soit explosé. Et c'est simplement, nous, c'est dans notre ADN aussi en tant qu'artiste, de se dire, là, on explose les murs et l'espace scénique, il est partout. Il est même dans le public. Et c'est l'idée aussi de rejoindre l'idée d'universalité. L'opéra, c'est pour tout le monde, l'accessibilité à tous. Moi, je trouve que cette histoire d'immersion, de plus en plus, ça, enfin, moi, je me sens pas concerné par cette chose-là. Je dirais que c'est vraiment l'idée de partager de manière le plus authentique possible.
Après, le spectacle vivant est par essence immersif, en fait, parce qu'il y a cette vibration qu'on partage en direct. Sans écran, quoi. À tous les niveaux, en fait. Et ça, c'est assez génial. C'est assez jouissif. On a vraiment de la chance de faire ce métier aussi pour ça.
Eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Antoine.
Je les écoutais, c'est très beau ce qu'ils disent.
On entend bien ce qui vous fait, ce qui vous motive, ce qui vous passionne, cette vie. Tu as parlé plusieurs fois de vibration, ce lien, être en contact en direct. Tu parlais d'authenticité aussi, Mathieu. Vous allez proposer un temps en amont de ces trois représentations, le 11, je crois que c'est un mercredi à la médiathèque, justement, une sorte de pré-spectacle. On me dit, dans mon oreillette, à l'espace culturel de Saint-Cernin. Merci. À l'espace culturel de Saint-Cernin, oui, le 11, et en plus je l'ai marqué, c'est gratuit, sur réservation uniquement auprès de la médiathèque de Benin. Voilà, c'est pour ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer là
ça n'aura rien à voir avec le spectacle, donc on peut vraiment venir aux deux. Alors là, on entendra plus des airs du répertoire d'opéra, et on va raconter, en fait, dans un mini-spectacle qu'on a écrit, rien que pour vous, de cette rencontre, en fait, entre un violoncelle, une soprano, un ténor.
Que se passe-t-il? Vous le saurez le 11 juin à l'espace culturel de Saint-Cernin, au centre culturel de Saint-Cernin. Et puis, pour le reste, aussi, donc du 13 au 15 juin, votre spectacle Hibiscus et Palissandre, à voir donc dans des lieux incroyables. Les réservations se font sur le site de La Baume en Musique, bien sûr, puisque, on l'a dit au début de cette émission, ça a été écrit et complètement créé par Philippe Forget. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. Clémence Lévy, soprano, Mathieu Justine, ténor, et Antoine Payen, violoncelliste et comédien, de nous avoir parlé de ce spectacle. Un petit mot aussi, si vous voulez plus de musique classique sur Fréquence 7, ça se passe les premiers et les troisièmes dimanches du mois à 19h, et ça s'appelle Oscillation atemporelle, présenté par Marie et avec la complicité aussi de Philippe Forget de La Baume en Musique. Et ben voilà, tout est dit, mon Dieu. Merci d'avoir écouté encore une fois cette onde curieuse. Il n'y en a plus beaucoup, hein, c'est jusque jeudi prochain, donc restez à l'écoute, et puis restez à l'écoute de tous les programmes de Fréquence 7. À 15h, vous retrouverez le Telex, ce sont vos messages. À 17h, l'onde curieuse, la rediffusion, si vous n'aviez pas tout compris ou juste pour le plaisir. À 18h, c'est Polémique, c'est la voix off, qui est au festival au quart de Tours. C'est loin Tours, mais on a les mêmes problématiques que chez nous. Des problématiques qui ont conduit les organisateurs du festival à une charte anti-relou. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en pense? Et un relou, qu'est-ce que c'est, au fait? Eh bien, vous le saurez tout à 18h sur Fréquence 7, et puis à 21h, Metal Zone. Voilà, merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. On se retrouve jeudi, à nouveau, avec La Baume en Musique, décidément, avec le groupe Lei, qu'on avait rencontré, là aussi, il y a quelques temps. Ciao.